Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio où les micros s'animent et où les échanges prennent vie à chaque instant. Nous sommes en direct jusqu'à 16h30 depuis la buvette du MQC. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos participants du jour. On a Joël, on a Renzo, on a Patricia, on a Eliane, on a Samantha, on a Delphine et à la technique, je remercie déjà, on a Loïs. Au programme de cette émission, nous allons avoir la ménagerie d'Eliane, le retour de nos deux chroniques phares, hein. On en a déjà quelques-unes, mais c'est vrai qu'elles étaient un petit peu en vacances et en pause, mais on recommence aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait la rentrée scolaire, mais presque, la ménagerie d'Eliane, on passera par Jolet Bout Tuyau, et puis on passera aussi par cette magnifique rencontre avec Renzo qui va venir nous parler des échecs et aussi de faire un petit tour autour des jeux de société. Et on terminera l'émission avec un partage de Patricia et de Delphine, on pourrait dire un partage d'expérience. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par notre émission, émission que vous retrouverez dans son intégralité en rediffusion sur notre site pavillonnomade.ch. Bonjour Eliane.
Bonjour à tous.
Ça fait plaisir de vous revoir Eliane. Alors, vous n'étiez pas en vacances parce que vous aviez quand même fortement à faire. Déménagement, c'est bien passé ?
Tout s'est très bien passé. Ça prend un peu de temps pour déménager, mais j'apprécie beaucoup et je souffre quand même un petit peu de la chaleur, de la canicule que je n'avais pas en montagne.
Oui, c'est vrai, parce que vous êtes descendu en plaine. Heureusement, la température commence gentiment à baisser. Hein. On a le mois d'août encore, on va peut-être encore avoir quelques canicules. Mais ce n'est pas la question du jour. Ménagerie d'Eliane, de grand retour, c'est parti.
Dans la ménagerie d'Eliane.
En ce bel après-midi d'été, je vous propose un survol de l'univers du moustique. De la famille des diptères, la nourriture du mâle est principalement composée du nectar des fleurs et surtout, il ne nous pique pas. La femelle, par contre, nous inflige de douloureuses blessures. Son sang préféré est celui du groupe O, qui est gorgé de protéines et de fer. Il existe plusieurs races de cet insecte. Le moustique indigène et les trois races de moustiques qui arrivent petit à petit chez nous. Le moustique tigre asiatique et celui de la brousse africaine et coréenne. Leur durée de vie est d'environ 50 jours. Le développement des centaines de larves dure entre 24 et 48 heures. Le moustique nous repère à 50 mètres. Donc inutile de courir dans votre appartement, cela ne sert à rien. Il vit dans l'eau stagnante, un étang, un seau, un bol d'eau, sont des lieux propices à la reproduction des moustiques. Les larves mettent entre 24 et 3 jours à se développer. Le soir et l'aube sont ces moments adorés. Pour calmer nos démangeaisons rapidement, il nous faut une poche de glace ou du vinaigre et ne pas se gratter. En général, cela passe au bout de 3 jours. Une réaction allergique peut nécessiter l'intervention de votre pharmacien. Dans d'autres contrées, il peut transmettre la dengue. Cette maladie peut juste être traitée par des vaccins préventifs. Dans le Nouvelliste d'aujourd'hui, on apprend qu'une personne valaisanne est revenue d'un pays étranger avec cette maladie. Donc, pour ne pas nommer cette commune qui est fuie, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir désinfecter les buissons, enlever tout ce qui est eau, vider les piscines. Par contre, comme la fièvre jaune, il existe un vaccin très efficace, qu'on doit d'ailleurs se faire vacciner très souvent si on part dans un pays hors Europe. Pour terminer, rappelons-nous au moment de nous endormir, ce doux bourdonnement à nos oreilles, sa petite taille ne nous facilite pas la vie pour les attraper.
Merci Eliane pour ce retour de la ménagerie d'Eliane. Alors effectivement, qui n'a jamais été embêté par les moustiques autour de la table, hein? Alors, Renzo,
moi,
bonjour.
Je pense que oui, j'étais piqué par les moustiques. Je me sentais vraiment pas bien, quoi, je veux dire.
Et comment on peut qu'est-ce que vous avez comme petite technique, Renzo, pour soulager ces démangeaisons et ces piqûres?
Peut-être prendre un peu de crème Mitamerfen, des crèmes comme ça, ou des crèmes, je ne sais pas comment expliquer, des crèmes exprès pour les mains, quoi.
Ouais, peut-être des crèmes. Ouais. Eliane?
Il existe également des comprimés, pour ne pas nommer le phénistyl, qui calme beaucoup les démangeaisons. Et en plus, on peut mettre de la crème. C'est un peu ce que disait
Renzo.
Voilà.
Et puis, des techniques un peu plus, on pourrait dire, dans les tiroirs des souvenirs de grand-mère. Qu'est-ce qu'on aurait comme technique, Patricia? Et après, on aura Joël. Alors, Patricia, le temps qu'on vous équipe du micro, allez-y. Bonjour, Patricia. Bienvenue.
Bonjour. Alors, voilà, moi, je pense au tea tree.
Au tea tree.
Tea tree. C'est de l'huile essentielle de Melaleuca. Il y a deux noms, tea tree, mais c'est plus connu sous tea tree. Il ne faut surtout pas mettre près des yeux ou quoi, mais sur la peau, on peut tout à fait, ça désinfecte. Et c'est sans danger. Mais il ne faut pas être allergique aux huiles essentielles.
Ah, alors attention à ceux qui sont allergiques, peut-être contrôler auprès de vos proches, si vous êtes des plus jeunes, ou auprès de votre médecin, si vous êtes connu pour ça, si ça peut vous être indiqué ou pas indiqué.
Je vais juste rajouter un petit truc parce que c'est très important cette chronique du moustique pour moi. J'ai un ami qui habite à Monthey qui a été piqué chez lui à Monthey par un moustique et il s'est avéré que ce moustique lui a transmis le chikungunya et cet ami a été extrêmement malade. On n'a pas trouvé tout de suite ce qu'il avait. Puis finalement, on a trouvé qu'il avait le chikungunya. Il a failli perdre l'usage de son poignet où il avait été piqué. Alors, je conseille, si je peux conseiller quelque chose, c'est vraiment que s'il y a le moindre doute, si ça devient bizarre la piqûre ou quoi, il faut tout de suite aller chez le pharmacien, éventuellement chez le docteur.
Bah, vous avez raison, voilà. Tout de suite consulter dès que ça dépasse des démangeaisons, des rougeurs, ou quand on commence à avoir comme ça peut-être des symptômes qui surviennent, hein, si on fait le lien avec ce qui se passe à Fuy, hein, les symptômes pour la dengue qui viennent souvent 4 à 10 jours après la piqûre, c'est forte fièvre, maux de tête, douleur derrière les yeux, douleur musculaire, articulaire, nausées, vomissements, éruptions cutanées. Alors, comme Patricia, si vous avez ces symptômes qui surviennent après quelques semaines, on peut que vous conseiller d'aller consulter pharmacie ou médecin. Joël, on parlait tout à l'heure de petits tips comme ça qui permettent de soulager ces piqûres qui nous démangent. Qu'est-ce qu'on aurait?
Alors, enfant, je me souviens, je crois que maintenant ça s'appelle autrement, c'était une crème à base de camomille. Donc, ils ne la fabriquent plus, mais je crois que c'est sous un autre nom. Et bon, c'est pas une méthode grand-mère, mais c'était très efficace.
Alors, j'ai vu Samantha qui levait la main. Samantha, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour. Alors, sauf erreur, est-ce que ce n'était pas le CETA, quelque chose comme ça? Voilà, j'ai connu.
Bienvenue. Le CETA, qui n'a pas connu le CETA? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Et ça a une odeur, effectivement, qui n'est quand même pas très, très agréable. Mais alors, est-ce que quelqu'un connaît la technique de la petite croix? Parce que moi, en tout cas, petit déjà, je le faisais sur moi et mes enfants me demandent régulièrement. C'est quoi cette technique? Patricia, allez-y.
Oui, alors c'est tout simple. Moi aussi, j'ai connu ça étant petite. Quand on se fait piquer par une puce, parce qu'on avait des puces chez nous, puces, moustiques, etc., ça faisait une petite bosse rouge, bien sûr. Et avec l'ongle, on appuyait fortement jusqu'à ce que ça fasse un trait profond. Et ensuite, une deuxième fois, on appuyait en faisant une petite croix, un trait profond. Et on nous disait, maintenant, tu grattes plus, ça va passer.
Ouais. Bah, étonnamment, moi, pour l'avoir testé, ça me soulage. Et mes enfants, à chaque fois, me disent « Ah, s'il te plaît, papa, fais-moi une petite croix dans le dos, là. » Et ça semble fonctionner. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres petits tips comme ça, en dehors des crèmes qu'on a entendues, peut-être, ou pas. Alors, Samantha, allez-y.
Alors, je n'ai pas forcément de tips, mais d'avoir quelqu'un avec vous qui est du groupe O, justement, parce que je viens de l'apprendre, ça vous permet de ne pas vous faire piquer. Donc, quelqu'un comme moi, à côté de vous... Vous êtes sûr, j'attrape tout. Du coup, partez en vacances avec moi, c'est bon. Oui, exactement, le haut.
Alors, est-ce que le haut, moi je fais du sang haut, je dis souvent Amérique du Sud, est-ce qu'on a le sang un petit peu plus sucré ou pas? Je ne sais pas, mais En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que je me faisais tout le temps, j'étais l'antiseptique pour tout le monde, et ça fait quelques années, j'ai plus rien. Donc, à savoir pourquoi. Par contre, je sais que quand on part en voyage dans des pays un peu tropicaux, où on peut avoir malheureusement certaines maladies qui sont transmises par les moustiques, de prendre des traitements pendant quelques semaines avant de Benerva, fait qu'on va sécréter, c'est une odeur très particulière et très forte, hein, et qui fait qu'on va, dans la transpiration, avoir cette sécrétion, et qui fait que l'odeur fait effectivement fuir les moustiques, en tout cas de gens qui partent en voyage, des guides de montagne que j'ai connus, c'est quelque chose qui est assez connu et qui fonctionne. Donc voilà, bah, merci en tout cas d'avoir déjà partagé sur ce début de partie d'émission. Alors, les moustiques, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore des moustiques? Qui a envie d'échanger encore un peu sur les moustiques? Delphine, on vous écoute.
J'ai juste un mot à dire aux moustiques. Oust!
Oui, moi je suis d'accord avec vous. Mais finalement, ils nous embêtent, mais ils font quand même partie de l'écosystème. Parce que s'ils sont là, c'est qu'il y a bien, quelque chose de... Pourquoi ils sont là, les moustiques, Joël?
Les moustiques, c'est souvent... ils se trouvent en grande majorité au bord des étangs. C'est l'alimentation des poissons.
Et ben voilà, tout simplement. Alors, si les moustiques étaient un peu plus gros, on les mettrait au bout de la mouche, peut-être pour pêcher. Alors ça, je sais pas. Hein. Mais non, les moustiques ont leur fonction, mais c'est vrai que c'est quand même embêtant. Alors après, quelles sont les autres techniques qu'on peut pour éviter d'utiliser peut-être des produits trop et pas être embêté à la maison, Delphine? Et après, on donnera la parole à Eliane.
Il y a la citronnelle, les bougies de citronnelle.
Ouais, la citronnelle, bougies de citronnelle.
Et il y a aussi les feuilles de laurier à brûler vers les fenêtres, parce qu'ils détestent cette odeur. Et aussi, ce qui est génial, c'est le ventilateur. Dès qu'on met en route un ventilateur, le moustique, il perd la boule.
Ouais. Et les ventilateurs, parce que c'est vrai que sinon, il y a tous ces produits anti-moustiques, mais qui sont souvent quand même avec quand même des produits dedans. On ne sait jamais trop ce qu'il y a qui peuvent être dangereux. Patricia, allez-y.
Oui, juste un petit mot. Dans mon pays, on se passe à l'huile d'olive, la peau.
L'huile
et puis, il n'y a plus personne qui pique, qui glisse, je pense, je ne sais pas. Les mouches ne viennent plus, les moustiques, tout ça et tout.
Ouais, mais je pense que suivant l'huile d'olive, il n'y a plus personne qui vient du tout. Hein. Je ne sais pas si elle est frelatée ou pas.
C'est sûr qu'ici, on ne peut pas vraiment utiliser cette technique.
Ouais. Oh, sinon, parce qu'il y a souvent aussi, alors je sais que ça existe, hein, ces lampes bleues qu'on met, qui sont d'ailleurs interdites hein, dans certaines régions, parce que ça attire tous les insectes qui ne sont pas des nuisibles, on appelle nuisibles, ou qui ne sont pas dangereux, et que ça casse aussi cette chaîne d'écosystème. Système. Donc, en tout cas, c'est peut-être ça fonctionne, mais c'est peut-être pas la meilleure des choses. Ou sinon, c'est les moustiquaires. Ben, de faire installer des moustiquaires à la maison, et puis la température aussi. On a parlé de vent, mais aussi ils aiment pas le froid. Donc
et l'humidité.
Ils aiment pas l'humidité.
Et donc ils sont très attirés.
Ils sont très attirés par l'humidité.
Donc cette année n'est pas une année à moustiques. C'est parce qu'il n'y a pas tellement d'eau qui stagne.
Oui, sécheresse. Je pense qu'on n'a pas eu. D'ailleurs, on a des interdictions d'arrosage depuis quelque temps. Hein. On a encore sous une interdiction de peut-être même vider, de remplir les piscines. Je pense qu'on n'a pas eu un moment aussi sec que ça depuis un moment. J'espère que ça va changer. En tout cas, merci d'avoir participé déjà à cette première partie d'émission. On va se quitter en chanson avec une chanson qui va tout droit avec le thème du jour. Eliane.
Le moustique.
Le moustique de Joe Dassin. On se retrouve dans quelques instants. Parfait, bravo.
Non mais m'en laisse des mosquitos. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Non mais moleste et mosquitos. Non mais moleste et mosquitos. Non mais moleste et mosquitos. Retourne chez toi. Tu me vois mélancolique de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas.
Y a des pays pleins de volupté pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas.
Joe Dassin et ses moustiques. Et comme le dit la chanson, elle a dit Delphine Oust. Elle avait tout à fait raison. Les jeux de société rassemblent toutes les générations autour d'une table. Ils font rire, réfléchir, parfois débattre et créent souvent des souvenirs mémorables. Parmi eux, les échecs occupent une place à part. Un jeu vieux depuis plusieurs siècles où chaque coup compte et où stratégie, patience et anticipation sont les clés de la victoire. Aujourd'hui, on vous propose de parler de ce jeu fascinant en présence de Renzo, mais aussi plus largement notre rapport aux jeux de société. Bonjour Renzo.
Salut Jimmy.
Ça fait plaisir de vous voir ici pour la première fois à Pavillon Nomade. Je suis content. Oui. Ça fait quelques années qu'on se connaît et puis je suis content de vous retrouver aujourd'hui et surtout autour de notre table. Alors, première question, comment vous avez découvert les échecs et à quel moment cette passion est-elle devenue une véritable partie de votre vie?
J'ai commencé à jouer aux échecs avec mon oncle. C'est mon oncle, l'âge de 8-9 ans, qui m'a présenté les échecs. On jouait quelques parties ensemble. Mais où je me suis vraiment dédié aux échecs, c'était à partir de 15 ans. Je suis rentré au club d'échecs de Sion, que j'ai joué pendant 5 ou 6 ans à peu près. Et puis après, par rapport à mon parcours, je suis parti à un moment donné à Montana pendant 3 ans. Et là, ça fait depuis 2009 que je joue pour le club d'échecs de Martigny, justement.
On aura l'occasion de revenir d'ailleurs. Oui. Depuis 15 ans, vous dites vraiment cette passion. Oui. Aujourd'hui, alors on va pas faire de on va pas trop. Si, on va dire, vous avez 45 ans cette année, donc c'est quand même rien. Ça fait quand même
une trentaine d'années.
Donc, est-ce que aujourd'hui vous faites des concours et est-ce que vous avez un classement? Parce qu'il me semble qu'il y a quand même un classement chez les joueurs d'échecs.
Franchement, oui. Alors justement, cette année, il y a eu le championnat valaisan par équipe. Ça s'est joué la finale à Ried. Bon, moi, je n'ai pas joué, mais c'est plus la une de Martignan qui a été, depuis 3 ou 4 ans, cette fois-ci, ils ont gagné le championnat valaisan, la coupe. On ne s'y attendait pas parce que, 3 ou 4 ans, c'était Sion qui menait le bal et maintenant, c'est Martigny, voilà.
Et donc, c'est le club dans lequel vous êtes qui a remporté la coupe, eux ont ramené la coupe à la maison. Voilà. Ce n'est pas pour faire un mauvais jeu de mots avec les joueurs de foot. Heureusement, on a tourné la page avec ça. Voilà. Mais les échecs ont la réputation d'être un jeu difficile. Hein. Moi, j'ai souvent entendu ça et puis je l'ai aussi essayé, pratiqué. Est-ce que c'est un jeu qui vous attire ou qui vous intimide? Quand vous avez 15 ans, est-ce que c'est la difficulté, le fait de ne pas savoir? Qu'est-ce qui a fait que vous ayez plutôt porté votre dévolu sur ce jeu-là?
Par rapport à ce jeu-là, moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je jouais peut-être une heure ou deux heures, j'analysais des parties, mais c'était vraiment compliqué pour arriver à ça. Il fallait vraiment que je pratique plusieurs fois pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Il y a aussi des hauts et des bas aux échecs aussi. Alors, voilà.
C'est vrai, ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience. Vous avez 30 ans d'expérience que vous avez mis au profit des jeunes. Aujourd'hui, vous donnez des cours aux plus jeunes. Qu'est-ce qui vous a motivé à transmettre votre passion pour les échecs?
Je pense que c'est parti par rapport à un ancien ami qui a à peu près 87 ou 88 ans. Il m'a un peu aidé, il m'a soutenu dans ma démarche d'entraîner les jeunes et tout. Il a fallu un petit moment pour me suivre. Et puis aujourd'hui, j'enseigne les échecs aux cadets, au club d'échecs de Martigny, tous les vendredis de 6h moins quart jusqu'à 7h. Mais là, en ce moment-là, on est en pause. On reprendra, je pense, mi-février ou fin septembre, les cours, quoi.
Et vous avez combien de jeunes qui participent à ces cours ? Généralement, quand vous donnez, c'est, est-ce que c'est des petits groupes individuels ? Est-ce que c'est des groupes de 5, 6, de plus ?
Alors, justement, on est trois professeurs, justement, et on a 5 ou 6 élèves chacun, à peu près. Alors, si on fait le calcul, il y a à peu près 18 jeunes ou 20 jeunes, à peu près.
Ah ouais, quand même, ça fait pas mal de jeunes qui jouent aux échecs. Ah, Patricia, allez-y, prenez seulement un micro. Bah, si vous avez envie de rebondir, il n'y a pas de problème. Hein.
Je me suis juste dit, il y a encore beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux échecs. Alors qu'on a l'informatique ici, ça, je trouve super, quoi.
Ben oui, vous avez raison. D'ailleurs, ça va mettre un petit peu l'eau à mon moulin pour la question. Si un enfant, un adulte qui nous écoute aujourd'hui et qui hésite à se lancer dans les échecs parce qu'il pense que c'est trop compliqué, quel conseil vous lui donneriez pour qu'il franchisse le pas ?
Ben ouais, bon, déjà, vous savez, les échecs, c'est un sport calme. On ne doit pas parler, on doit avoir le silence. Le natel, ça, on doit le mettre de côté. Tout ce que c'est bruit... Mais ce que je pourrais dire aux jeunes, ouais, ça fait travailler les neurones. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais beaucoup de jeunes qui jouent aux échecs, ils sont souvent certains jeunes au collège ou à l'université. Il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a un peu de tout, quoi. Voilà.
Eliane ?
Est-ce que la patience est une qualité requise pour jouer aux échecs ?
Alors oui. La patience, ouais, bon, c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir la patience dans ce jeu-là, mais c'est vrai que la patience, c'est tenir ferme. C'est vrai qu'il faut vraiment se concentrer. Je sais pas, moi, l'expérience que j'ai, c'est quand je joue contre un joueur qui a 400, 500 points plus que moi, je suis vite fatigué, quoi. Voilà. Mais quand c'est un adversaire qui est moins fort que moi, là... C'est lui qui est fatigué.
Voilà. C'est lui qui est fatigué. Mais on parlait, c'est un jeu de patience, c'est vrai qu'il faut être concentré. Oui. Mais expliquez-nous un petit peu, pour ceux qui sont un petit peu pas des érudits dans ce domaine-là, dans les concours, ils ont une machine à côté où on les voit jouer et puis ils tapent dessus. Et puis ils jouent assez rapide et des fois c'est même assez speed. Alors, c'est pas tellement de patience, mais ça consiste en quoi et c'est pourquoi ils utilisent cette machine ?
Justement, il y a différents... c'est la pendule, justement. À l'époque, les blitz c'était parti de 5 minutes chacun. C'est-à-dire, celui qui joue, on tape dans la pendule et le temps, il réduit. Tu tapes dans l'autre, pareil et tout. C'est vrai que les parties rapides, ça, il n'y a pas de problème. Faut pas réfléchir, c'est plus la réflexion. Mais après, si après on commence à jouer des parties semi-rapides, ça veut dire 20 minutes plus... 10 secondes d'incrément ou 3 secondes d'incrément, ça veut dire dans le sens que la pendule, à chaque fois qu'on joue, la pendule rajoute 3 secondes de plus dans la pendule. Alors ça peut faire, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment fort, quoi, je veux dire.
Ouais, tu penses, ça met de l'intensité dans le jeu. Voilà. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut être soudainement en train d'avoir la main sur le jeu et de gagner, mais parce qu'on a pris trop de temps, on a réfléchi et qu'on n'a plus de minutes à son compteur, perdre le match ?
Oui, ça peut... Oui, ça peut exister, ça, quoi. Oui, oui.
Donc, on peut lier du fait qu'on ait mal géré son temps de blitz ou de taper sur l'appareil, qui fait qu'on pourrait se dire, j'étais en train, en bonne disposition de gagner, mais parce que je n'ai pas géré mon temps correctement, la partie est terminée.
Ouais, puis bon, dans ces matchs-là, c'est assez dur parce qu'on a l'adversaire qui est en face. On est là, on joue aux échecs, on regarde l'adversaire, on regarde comment il est son comportement, on ressent ce que l'autre joueur relance dans la partie d'échecs, mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Des fois, on a envie de jouer, des fois, on n'a pas envie de jouer, quoi. Ça dépend du moral.
Ouais. Et vous, qui êtes un joueur de 30 ans et qui jouait avec passion et qui donnait des cours, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ? Je suis tombé il n'y a pas si longtemps que ça, enfin pas si longtemps, ça remonte quand même à quelques mois, des parties d'échecs mélangées au sport de combat. C'est-à-dire qu'on va faire on joue aux échecs et une fois qu'on a fait ces deux mouvements, on va sur le ring et on va pendant le temps d'un gong. Faire de la boxe et combat, puis après on doit revenir jouer. Qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques et comment elles ont évolué ?
Je sais pas, mais bon, la boxe pas, mais on m'a proposé peut-être de jouer une partie d'échecs et en shootant le ballon comme au basket. On m'a plus parlé de ça que de la boxe parce que je sais pas comment on peut jouer aux échecs en même temps on reçoit un coup puis répondre. Je sais pas comment ça serait, ouais. Quoi,
mais... Alors, je ne sais pas, si autour de la table, vous avez vu cette évolution-là. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de voir cet écart, on pourrait dire, de ce jeu de société. Et puis qu'aujourd'hui, on en vienne à faire un jeu où on va sur le ring, on joue. Et c'est devenu une grande tendance. Hein. Et pourquoi, Patricia ?
Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on a réuni ces deux choses ?
Alors, moi, personnellement, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'autour de la table, il y a des hypothèses. Delphine ?
Peut-être pour mêler le sport physique et le sport intellectuel.
Ouais, peut-être que c'est une hypothèse. Joël ?
Alors moi, je ne vois vraiment pas du tout l'intérêt de se taper dessus et puis de jouer aux échecs. Mais en général, les échecs, moi, j'ai toujours connu... Je n'ai jamais joué, honnêtement. Mais je n'ai jamais appris. Mais les gens qui sont passionnés d'échecs, ils aiment être dans la réflexion et dans la stratégie, dans beaucoup de choses, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Après, c'est la mode, quoi.
Alors, s'il y a quelqu'un qui nous écoute ou qui nous écoutera en diffusion et qui nous écoute et qui, lui, connaît, est adepte et qui a envie de venir défendre, finalement, pourquoi et pour quelles raisons, avec grand plaisir, on vous accueille. Patricia.
Oui, juste une petite pensée. Là, tout d'un coup, je me souviens avoir lu que le sport stimule le cerveau. Mais je ne sais pas si la boxe stimule le cerveau.
Alors, j'ai plutôt l'impression, quand on voit Mohamed Ali, qui a été un des plus grands champions de boxe, a aujourd'hui des gros problèmes, des troubles neurologiques, alors, parce qu'il a reçu énormément de coups dans la tête. Hein. Il faut dire que c'est un choc et des traumas réels. Hein. On a même eu un moment, pour faire le lien avec le championnat de foot qui est terminé, un moment, Zinedine Zidane, on avait presque dû, les médecins voulaient qu'il arrête, parce qu'à force de taper de la tête contre le ballon, il commençait à avoir des troubles neurologiques. Alors, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas sûr que ça soit très un lien. Par contre, dans les échecs, Renzo, ça demande de pouvoir prévoir plusieurs coups à l'avance. On dit souvent que les gens, quand ils jouent, ils ont 2-3 coups, puis que les grands maîtres, les grands champions, ils ont des fois 10-15 coups d'avance au jeu. Vous en êtes à combien aujourd'hui ?
Oh, aujourd'hui, si je dois penser... 3 ou 4 coups à peu près.
Ah, quand même. C'est-à-dire que quand vous avez joué le premier coup, vous savez déjà les 3 suivants qui vont venir.
Le problème qu'il y a, c'est que c'est comme dans la vie courante. J'essaie d'anticiper les coups. Alors, par rapport au jeu, je suis obligé de me concentrer, de voir quel coup il va jouer et quels coups sont possibles. Et des fois, franchement, des fois, ça passe ou ça casse. Alors, c'est pas évident, mais ouais, je dois anticiper les coups. Mais c'est vrai qu'un joueur plus expérimenté que moi, je pense à un grand maître international, je crois que lui, entre 30 et 40 coups d'avance, quoi.
C'est énorme. Alors, vous avez un peu partiellement répondu à ma question qui était en lien avec la question, c'est est-ce que c'est une qualité que vous utilisez aussi dans la vie de tous les jours, d'avoir ces coups d'avance ?
Alors, justement, Jimmy, oui, alors dans ma vie, c'est comme ça, c'est... J'anticipe, c'est vrai que j'anticipe beaucoup de choses, j'imagine beaucoup de choses. Et c'est vrai, dans la vie courante, on apprend à vivre comme ça, quoi.
Voilà. Merci. Hein, mais pour les autres, à cette question de dire, finalement, dans les échecs, c'est anticipé. Est-ce que vous pensez que ça peut être une qualité qu'on peut... On parle souvent de transfert de compétences. Est-ce que vous pensez que ça peut être une qualité ? Delphine ?
Oui, je pense que c'est une qualité de pouvoir anticiper les choses... Mais il ne faut pas partir dans les extrêmes d'anticiper les scénarios négatifs.
Voilà, c'est pas mal. Merci de le rappeler. D'ailleurs, ça me fait poser. Merci, Renzo, d'avoir déjà pu, dans cette première partie d'échange en lien avec les échecs, nous donner un petit peu de votre passion, d'avoir répondu à nos questions. D'un point de vue plus général, hein, quand on parle de jeux de société, quel est votre jeu de société, votre souvenir de votre premier jeu de société ? Parce que c'est des jeux qu'on, généralement, on commence à l'enfance. Est-ce que vous avez, comme ça, autour de la table, le souvenir de votre premier jeu de société ? Eliane ?
Alors, mon premier jeu de société, c'était l'échelle.
L'échelle. Alors, dites-nous en dire un peu plus, parce que est-ce que c'est le jeu de loi, peut-être qu'on appelait ça ou pas ?
Oui, voilà, c'est la même chose.
Ok.
Moi, on appelait ça, mes parents disaient l'échelle, mais ouais. C'était le jeu de loi, oui.
Donc, rappelez un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a peut-être plus de gens qui ne jouent, c'était quoi exactement ?
Alors, en fait, c'est une carte avec différentes cases, et on joue avec un dé. Et on fait le nombre de cases qui est sorti avec le dé. Et suivant comment, il y aura une échelle qui va vous amener 4-5 étages plus haut. Par contre, il y a aussi des numéros qui vous font descendre Ça, c'est un yo-yo et c'est le premier arrivé en haut. Mais il y a beaucoup de pièges. Hein. Mais je me rappelle beaucoup de ce jeu-là. Puis on jouait aussi à... Oh là là. C'était avec les petits chevaux, là. Je ne me rappelle plus du nom.
Alors, les petits chevaux s'appellent les petits chevaux,
les
me
petits
semble-t-il.
Ben, voilà. Voilà, les petits chevaux, du coup.
Les petits chevaux. Eh ben, merci pour les autres. Votre premier souvenir de jeu de société, Delphine ?
Pour moi, mon premier souvenir, c'était le Memory.
Ouh, le Memory, oui, c'est juste. Hein. C'est un jeu qu'on commence souvent avec, avec les enfants assez vite, les petits de 10 pièces. Ouais, c'est juste Memory, très joli. Memory, pour ceux qui ne le savent pas ou qui se disent, mais jamais joué, on retournait 5 ou 10 cartes, ça dépend de la difficulté. Et à chaque fois, on devait retourner 2 cartes et puis se dire, ah bah non, là c'est la cuisine et là c'est le fer à repasser. Et puis sur le prochain tour, quelqu'un ouvrait de nouvelles pour se dire, ah bah tiens, là j'ai le fer à repasser que j'ai eu tout à l'heure. Et dès qu'on trouve les deux combinaisons, on les prenait, puis à la fin, c'était celui qui avait le plus de combinaisons. C'est ça, Delphine, hein ? Ouais. Alors, d'autres jeux de société que vous avez joué jeune, ou peut-être plus un jeu de société que vous avez découvert dernièrement, parce qu'il y a eu quand même une évolution dans les jeux de société, et aujourd'hui, on a des jeux de société pour tout niveau, hein, très intellectuels, très rapides et autres. S'il y avait un jeu que vous avez découvert ces dernières années, que vous avez envie de mettre en avant, ce serait lequel ? Alors, Patricia, allez-y.
Alors, ben, je ne sais pas si c'est un jeu, je ne sais pas du tout comment le nommer. C'est sûrement très vieux et très simple, mais c'est récemment que je l'ai découvert, c'est avec les dés, avec 6 dés. Mais je ne sais pas du tout comment on joue. Hein. J'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire, mais il y a un tas de calculs. On jette les dés et puis il y a des combinaisons de chiffres.
Ah, je crois qu'il y en a qui ont le nom, oui, j'allais dire qu'il y a des... le Yahtzee, exactement.
Voilà, j'ai trouvé génial.
Ouais, on doit faire une paire, un brelan, trois les mêmes, un full. Oui. C'est un peu avec comme certaines combinaisons du poker, mais voilà, avec des dés et puis à des points attribués. Ouais, le Yahtzee, c'est très sympa. Ouais.
Alors, une fois que toute ma famille était à la maison et j'avais plus aucun jeu de société, et puis j'ai déniché justement 6 dés. Puis j'ai dit, est-ce qu'on peut faire un jeu avec ça ? Et puis voilà, on est parti là-dessus, on a ri, c'était fantastique.
Excellent. Et quel est le best-seller des jeux à l'heure actuelle dans le Valais de jeux de cartes ? C'est lequel ? Le alors, prenez le micro, Patricia, si on l'entendra.
Moi, je suis nulle pour tout
alors,
ça.
Alors, le Uno, Uno, alors c'est vrai que le Uno, je pense, c'est intergénérationnel, il y a eu des évolutions. Mais dans le Valais, c'est le jeu de cartes, c'est quoi le plus... celui...
Le Yas.
Le Yas, bien sûr. Le Yas est quand même très, très difficile à jouer. La Belote, jeu français avec quelques règles similaires, est quand même un peu plus facile. Le Yas, et puis il faut faire attention avec qui on joue au Yas, parce que suivant comment, on peut se faire bousculer. Ou sinon, un des best-sellers aussi qu'on a dans les unités thérapeutiques de jour, parce que je fais un petit lien sur les jeux, où des fois on fait de la ludothérapie. Hein. Quel est le best-seller des jeux à l'UTJ ou ici dans les pavillons de l'hôpital ? Quel est le jeu qu'on voit le plus souvent jouer ? Delphine sourit, parce que est-ce que vous êtes adepte ou pas déjà de ce jeu ?
Le Rummy Cube.
Le Rummy Cube, ouais. Le Rummy Cube. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots c'est quoi le Rummy Cube ?
Alors, le Rummy Cube, c'est un jeu de chiffres où il faut faire des suites. Et ces suites, elles peuvent être de couleurs différentes ou des suites de nombres 11, 12, 13, par exemple. Mais c'est tout un jeu d'élasticité mentale.
C'est un jeu d'élasticité mentale qui ressemble un peu au Rami avec les cartes, mais avec des couleurs, avec des options qu'on a le droit à pas faire. Mais vous avez raison de parler d'élasticité mentale, parce que le jeu, avant d'être... C'est un jeu de société, on est là pour s'amuser, mais c'est un jeu aussi où on vient pouvoir renforcer certaines compétences. Ce seraient lesquelles de compétences qu'on pourrait renforcer en faisant des jeux de société ? Delphine ?
La concentration.
Ouais, la concentration, quoi d'autre ?
La mémoire.
La mémoire, ouais.
Et je dirais le changement intellectuel.
Ouais, changement intellectuel, concentration, mémoire, l'attention. On peut aussi retrouver la joie, le plaisir, le partage. Ce sont toutes des valeurs et des choses qui font que les jeux de société sont quand même des choses importantes. Et pour tous ceux qui jouent, on a toujours un petit moment où on rigole, où on passe un bon moment. Pour autant qu'on ne soit pas comme ma fille, une mauvaise perdante. Et oui, ma fille, quand tu écouteras, tu me diras « Papa, pourquoi tu as dit ça ?» Mais effectivement, non, ça va avec les années, elle s'est améliorée. On arrive gentiment sur cette deuxième partie d'émission, enfin deuxième thème. Enzo, j'avais quand même une question à vous poser en termes de fin. Si vous pouviez inviter une personnalité vivante ou disparue pour une partie d'échecs, ce serait qui et pourquoi ?
Je pense que ça serait Bobby Fischer.
Alors, qui est Bobby Fischer ?
Bobby Fischer est un grand joueur d'échecs. Il est assez bon. Normalement, il devait jouer la finale en 8-2 contre Karpov. Et à la fin, Bobby Fischer a disparu. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'était Victor Korchnoi qui a joué la finale à la place de lui. Alors, j'étais plus pour Bobby Fischer parce que comme il est du même sang que moi, américain.
Ah,
alors voilà, c'est plus ça, voilà.
C'est sympa. Peut-être que on ne sait pas d'en penser ou peut-être en jouant des parties. Alors j'ai vu, il y a des gens qui rejouaient les grandes parties d'échecs avec tout parce que tout est codifié. Tout le monde cherche comme ça. Puis on a des livres où on peut carrément se dire, il a joué ça. Moi, j'aurais fait quoi. Et
voilà,
il y a des choses incroyables. Il y a même de très très jeunes joueurs qui sont des maîtres. Je ne sais pas comment on appelle ça, des maîtres.
Maîtres internationaux.
Maîtres internationaux qui ont 10, 12.
Il y a grand maître international, maître fidé, et après il y a encore des autres. Il y a aussi maître candidat, il y a pas mal. Voilà.
Merci Renzo d'avoir pris le temps de nous donner un petit peu plus de lumière sur ce fabuleux jeu qui sont les échecs, si ça vous donne envie. Où est-ce qu'ils peuvent venir vous contacter s'ils ont envie de prendre des cours ou rentrer dans le club? J'imagine qu'il y en a un peu partout, mais si on veut mettre un petit peu en avant le club
d'échecs de Martigny. Alors justement, nous, on joue normalement à partir de 19h30 au casino Cybercafé, justement parce qu'à côté, il y a le cinéma et le bar. Alors, on est là quasiment tous les vendredis de 19h30 jusqu'à pas d'heure.
Et si on va sur Internet, si on veut vous trouver rapidement, qu'est-ce qu'on doit taper ?
Vous pouvez aller sur le site du Club d'échecs de Martigny. Là, vous aurez tous les renseignements acquis dans ce site.
Merci Renzo d'avoir partagé ça avec nous. Les jeux de société rassemblent toutes les générations autour d'une table. Ils font rire, réfléchir, parfois débattre et créent souvent des souvenirs mémorables. Parmi eux, les échecs occupent une place à part, un jeu vieux de plusieurs siècles. Et je suis en train de relire en fait le teasing de départ. Alors je suis désolé, vous avez vu, c'est après 3 minutes de phrase, je me dis mais j'ai déjà dit ça. Que l'on soit passionné d'échecs, amateur de jeux d'ambiance ou simplement joueur du dimanche, les jeux de société ont ce pouvoir unique de nous unir. Ils nous apprennent à réfléchir, à coopérer, à accepter la victoire comme la défaite et surtout à partager de bons moments. Merci de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas, parfois le plus beau coup n'est pas celui qui fait gagner la partie, mais celui qui donne envie de recommencer une nouvelle. On se retrouve dans quelques instants après une musique dédicacée de Delphine, Un mur pour pleurer de Anne Sylvestre. Cette dédicace, elle est pour qui, Delphine ?
Alors cette dédicace, elle est pour Emmanuel, l'infirmière de la forêt.
Alors,
voilà, petite dédicace à elle.
Petite dédicace à Emmanuel et je salue tous nos collaborateurs qui nous écoutent et j'espère que vous passez un agréable moment notre compagnie. Pardon.
Je cherche un mur pour pleurer. Oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh. On ne pleure plus, paraît-il, on avale tout, c'est facile. On ne dit plus rien lorsqu'on vous crache dessus. On reste serein, la colère, c'est mal vu. On est poli, poli, on tend son cul. Merci, merci. Je cherche un mur pour pleurer, oh. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh, oh. On ne s'aime plus, paraît-il. On dit que l'amour est fragile. On est très moderne, on laisse sa liberté. Mais on fait les poches aussitôt le dos tourné. On est copain, copain. On monde se raconte rien, plus rien. Je cherche un mur pour pleurer. Oh, je cherche un mur pour pleurer. Oh, on connaît tout par le journal, mais les mots, ça ne fait pas mal. On est toujours plus ému par ce qui est loin, mais on oublie la détresse de son voisin. On est bistrot, bistrot, on ne se connaît pas trop, pas trop. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. On mélange les accidents, les princesses et leurs prétendants. On ne dit plus rien lorsque des enfants ont faim, mais on ouvre sa bourse pour sauver des chiens. On est toutou, toutou, on a bon cœur, c'est tout, c'est tout. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh, oh. On ne pleure plus, paraît-il, on rigole et c'est plus facile. On n'écoute plus les poètes ou les errants. On leur dit taisez-vous, vous n'êtes pas marrant. On est télé, télé, on est si fatigué de penser. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh. On va à la messe au caté, ou bien on bouffe du curé, mais on chante en chœur, il est né le divin enfant. On va tous ensemble au muguet quand il est blanc. On est païen, païen, Dieu reconnaîtra les siens, c'est bien. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. On est toujours comme on n'est pas, un jour c'est triste, un jour ça va. On essaye bien, mais on n'a jamais le temps. On croit tenir la fleur et on meurt mécontent. On est paumé, paumé, si on pouvait s'aimer, s'aimer, être ensemble pour pleurer, oh, oh, avoir le temps de pleurer, oh.
Retour sur les ondes de Pavillon Nomade après cette même magnifique musique, Un mur pour pleurer. Et on se retrouve avec notre deuxième chronique de l'après-midi. Bonjour Joël.
Bonjour à tous.
Ça fait plaisir de vous retrouver parmi nous. On aura l'occasion de les retrouver sur les prochains mois aussi. Hein. On a aussi d'autres chroniques qui sont en vacances mais qu'on retrouvera petit à petit. C'est parti pour Joël les bons tuyaux.
Joël les bons tuyaux.
Alors aujourd'hui, je vais continuer sur le thème les vacances, mais la partie 2, qui nous concerne tous. Le gaspillage alimentaire, que ce soit dans les restaurants, les hôtels, thalassothérapie ou les différentes institutions prises en charge ou pas, pour citer un exemple qui est très à la mode actuellement, les retraites en montagne, voilà, c'est juste un petit exemple, qui ont pas mal de succès ces dernières années. Nous allons commencer par les restaurants. Alors les restaurants, c'est vrai, d'habitude on finit notre assiette, mais des fois, selon le restaurant et la brasserie, ils ont, on reçoit des assiettes vraiment très très généreuses. Ne laissez pas tout sur les assiettes, s'il vous plaît. Le personnel de service, ils vont vous donner très volontiers un contenant avec un couvercle. Vous pouvez prendre les restes et les réchauffer au micro-ondes à la maison. Non seulement vous évitez le gaspillage, mais vous avez un repas pour le soir ou pour le jour suivant. Donc n'hésitez pas. Les pizzerias, c'est la même chose. Alors des fois, la pizza, bah, elle est correcte, on arrive à tout manger. Mais selon les pizzerias, vous avez devant vous une énorme galette. et vous mangez les trois quarts et puis vous reste un quart. Que vous sachiez que le personnel du service et surtout le pizzaïolo qui se donne la peine de vous faire la pizza, il vous offre un carton volontiers. La pizza, vous pouvez la réchauffer, vous pouvez la manger froide, vous pouvez la manger même deux jours après. Ça tient au frigo, ça ne bouge pas une oreille et vous ne risquez rien. Là, on va vraiment invoquer un sujet hypersensible et catastrophique. Les buffets, petit déjeuner, dîner et les soupers. Alors ça, c'est vraiment catastrophique. Mesdames, messieurs, vous n'allez pas mourir de faim. Mais le réassort, il est toujours fait. Il y a toujours quelqu'un pour vous resservir. Alors, s'il vous plaît, c'est vrai, on arrive là-devant, on a envie de tout manger. Mais faites-vous une assiette correcte. Il y a toujours bien assez. Mangez tout. Pour citer un exemple, des fois on va se resservir un petit truc parce que c'est juste la gourmandise. Mais ne soyez pas, ne gaspillez pas. Allez vous resservir. Il y a toujours assez. Il y a toujours assez. Pour tant de personnes, ils prévoient toujours large. Ça je connais parce que je fais partie du monde de la restauration aussi. Les enfants. Si vous avez des enfants, alors avec nos yeux d'enfants, évidemment, c'est joli. Il y a plein de trucs. Ne les laissez pas tout seuls. C'est une question d'éducation et aussi qu'ils apprennent aussi à se faire une petite assiette. Tu veux encore ? Ok, je t'accompagne. Tu veux encore un bol de céréales ? Tu veux encore une tartine ? Tu veux encore les pâtes à la tomate ? Un petit peu. Je t'accompagne et je te montre comment il faut faire. Mais ne les laissez pas tout seuls. Parce que les enfants, ils voient toutes ces belles choses, toutes ces bonnes choses. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se faire un joli petit tas. Et après, ça reste sur les tables. Et c'est vraiment... c'est dommage. C'est du gaspillage. Alors, donc, tout ça pour vous dire et vous expliquer qu'il y aura toujours assez à manger. Et que vous respectez les petites mains qui se lèvent tôt pour préparer, l'aimer et vous servir pour que vous soyez satisfait de votre séjour. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.
Merci beaucoup, Joël, pour ces bons tuyaux. Mais c'est vrai que c'est très sensible, hein, le gaspillage de la nourriture. Et je me disais, j'ai vu l'autre jour dans un restaurant et j'ai trouvé que c'était vraiment une belle initiative de cette dame. Elle était venue au restaurant et elle n'avait pas terminé. Et puis comme nous, des fois, on prend aussi on demande à réemporter. Et elle a dit non, un instant. Elle a sorti son Tupperware de son sac. Elle a dit, j'ai pas terminé, j'aimerais que vous me mettiez ça là-dedans au ramier. J'ai trouvé ça excellent, parce que là, on va jusqu'au bout même de faire attention, c'est-à-dire qu'on fait attention, on n'a pas tout mangé, et en plus de ça, on va éviter les emballages en plastique, les cartons, qui coûtent quand même cher pour déjà l'entreprise, hein, quand je dis l'entreprise, le restaurant ou l'hôtel, et moi, j'ai trouvé ça excellent, en tout cas. Samantha.
Oui, je rebondis là-dessus, dans le sens où il y a aussi des restaurants qui existent, qui sont nourriture à volonté. Et du coup, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils font payer la nourriture que vous n'avez pas mangée. C'est-à-dire, si par exemple, un buffet à la volonté est à 20 francs, si vous ne finissez pas vos assiettes parce que vous avez redemandé, puis c'est comme elle disait, voilà, par rapport à la gourmandise, on se relève, voilà. Du coup, il y a certains restaurants qui font payer un supplément pour la nourriture qui est gaspillée dans l'assiette après. Donc ça, j'ai déjà eu vu et je trouve ça assez bien. Et ça permet aux gens justement d'éviter de trop se resservir par gourmandise et de laisser d'avoir les yeux plus gros que le ventre.
Vous avez raison, et je trouve que c'est une très très bonne approche, parce que c'est une manière de sensibiliser et de faire prendre conscience aux gens que tout n'est pas gratuit et puis que ça a un impact quand même, hein. Oui. Aujourd'hui, les chiffres nous disent qu'on a dépensé, je les ai pas exactement, mais en gros, ça veut dire qu'il y a une date dans l'année où on calcule ce que le monde produit et on a déjà dépensé plus que ce que la Terre peut produire. Donc c'est quand même alarmant et inquiétant. Joël.
Pas uniquement. On a de quoi nourrir 12 milliards de personnes sur cette planète et il y a toujours des pays qui ont faim. Alors aussi, pensez un petit peu à ça. Il y a les dépenses, oui, c'est clair et on dépasse les productions. Mais quand on a, quand même à manger pour 12 milliards de personnes. Moi, j'estime que voilà, faut quand même revenir en arrière. C'est pas parce que vous avez payé une prestation que vous pouvez faire n'importe quoi.
Non, vous avez raison. Hein. Et puis, il y a des petits gestes comme ça qui sont sensibles. J'ai mon cœur qui s'est pincé. Je dis, les histoires que je vous raconte, elles sont vécues. Hein. On est dans l'authenticité ici à Pavillon Nomade. Mais on sortait du restaurant un jour et on avait pris le Tupperware avec nous. Et en marchant, à un moment, bah, il y avait une dame qui était assise, qui était là, qui faisait la manche. Et je ne sais plus si c'est mon fils ou ma fille qui ont dit, mais papa, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner à elle? Et puis, j'ai trouvé ça tellement touchant que je lui ai dit, tiens, bah, vas-y, va lui donner. Et on a eu un regard de cette dame par la gentillesse qui avait été faite à ce moment-là. Alors oui, on aurait pu le garder pour nous et le mettre dans le frigo. Ben là, non, on a pris aussi le loisir. Et ça, je dis à nos enfants, bravo, parce que je dis à nous, je ne les ai pas éduqués tout seul. Hein. Mais voilà, on peut avoir comme ça des petites attentions pour être un petit peu plus respectueux des autres et puis de la nourriture en elle-même.
Exactement. Ouais. Puis penser aux petites personnes, aux petites mains, comme j'ai dit, hein, qui travaillent dur. Voilà, qui vous offre quand même quelque chose de beau, d'appétissant. Voilà, c'est malheureux.
Samantha ?
Oui, il y a aussi actuellement des applications qui permettent, il y a plusieurs restaurants ou bien boulangeries ou peu importe ceux qui vendent de la nourriture, qui font à des prix bas en fin de journée, justement, pour récupérer ces plateaux ou ces box à des prix vraiment réduits pour éviter le gaspillage et puis pour pouvoir prendre à la maison ces choses-là.
Ouais, vous avez raison d'en rappeler parce que dans le jour des bons tuyaux, Joël nous en avait parlé. On avait parlé de ça qui était le Too Good To Go, exactement. Donc, si vous avez envie de soutenir les artisans du coin et de surcroît d'éviter qu'il y ait du gaspillage, en plus de ça, ça fait du bien en porte-monnaie. On peut aussi peut-être se faire plaisir pour d'autres choses. Je vous invite à aller voir sur ce site pour avoir un peu plus d'informations. On se fait une avant-dernière pause musicale avec un titre proposé par Joël qui s'intitule...
We are the world.
US for Africa de 1985, ça ne rajeunit pas. C'était toutes les stars du moment qui se sont réunies pour soulever des fonds, pour aller soutenir l'Afrique en famine.
Exactement.
Oh, there's a choice.
magnifique morceau de l'album US for Africa avec des grands noms. Hein. Je pense que vous avez retenu pas mal de gens qui, pour certains, ne sont plus là. Mais on a une petite pensée pour eux aussi et pour toutes les personnes qui nous ont quittés ces derniers temps. Dernière partie d'émission qui va nous amener gentiment sur la fin, intitulée Partage d'expérience. On a Delphine et Patricia qui ont voulu nous faire un petit partage d'expérience. Bonjour Delphine, rebonjour plutôt.
Bonjour.
De quoi vous allez nous parler et qu'est-ce que vous avez envie de partager en ce jeudi 23 juillet ?
Moi j'ai envie de partager quelque chose, je vais le nommer de nouveau la résilience et j'aimerais un peu expliquer un parcours.
Alors, on vous écoute.
C'est un parcours que j'ai fait depuis des années, ici à l'hôpital, où j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu énormément d'émotions négatives, positives, mais il y a eu énormément. Et aujourd'hui, je ressors vraiment grandi de cette expérience. Aujourd'hui, je suis à la radio en train de parler. Honnêtement, je ne pensais pas le faire il y a 5 ans.
On peut que vous applaudir déjà pour ce partage, Delphine, et l'émotion que vous avez. Je peux vous dire que moi-même et nous tous autour de la table, les gens qui nous écoutent, on la partage avec vous parce que c'est pas évident dans la vie quand on a comme ça des fractures, quand on a des moments de vie qui nous mettent dans des difficultés, apprendre à reconstruire, à retrouver des capacités, c'est pas évident et vous en êtes la preuve et c'est source d'espoir pour nos auditeurs et auditrices et tous les gens qui j'espère, trouveront les ressources d'aller toujours vers l'avant, de se dire eh oui, il y a 5 ans en arrière, vous auriez jamais pensé et aujourd'hui vous êtes là, Delphine.
Oui, alors j'aurais jamais, mais vraiment jamais pensé à venir à être autant à l'aise en parlant. Petite anecdote, il y a 5 ans, j'étais avec Jimmy au pavillon nomade quand ça a commencé. C'était compliqué à discuter. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à l'hôpital et à l'extérieur. Et aujourd'hui, je ressors grandi de beaucoup, beaucoup d'expériences de l'hôpital.
Alors, de l'hôpital et de ramener aussi que c'est une expérience personnelle. Hein. Je dis souvent aux gens, on est catalyseurs dans le partage même avec Pavillon Nomade. Hein. On va donner des choses, mais la personne qui fait qu'aujourd'hui, 5 ans après, vous en êtes là, c'est qui ?
C'est moi.
Eh ben voilà, tout est dit. Vous pouvez être fiers de vous parce que c'est vrai, vous nous avez proposé en plus jeudi passé une petite rubrique humoristique sur la fin de cette Coupe du Monde. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a 5 ans en arrière, je n'aurais pas misé dessus. Peut-être non plus sur le gagnant de cette année. Eliane, vous aviez envie de rebondir ou pas ? On vous écoute, Eliane.
Je trouve admirable quand on peut regarder derrière soi. Quand on a des parcours psychologiques difficiles, et de se dire, enfin, je l'ai, je peux le faire. Et il faut des années.
C'est vrai. Merci Delphine d'avoir partagé ça avec nous. Et c'est une réalité. Hein. On dit souvent la roue tourne. Alors elle tourne, puis des fois elle tourne, elle retourne dans le mauvais sens. Mais quand on a le souhait, quand on a l'espoir, quand on a la responsabilité, quand on donne du sens, quand on se redéfinit, on arrive toujours à retrouver pied. Vous en êtes l'exemple typique, Delphine.
Oui, alors oui, j'ai retrouvé pied et j'aimerais envoyer tout cet espoir à tous les patients de l'hôpital, qu'il y a toujours de l'espoir dans nos vies, et même si elles ne sont pas faciles, il y a toujours de l'espoir et merci aux soignants aussi qui m'ont apporté ce petit bout de bonheur.
Eh ben, merci pour eux, merci de ce partage. Patricia. Patricia, vous aviez aussi envie de faire part d'une expérience qui s'intitule, on en discutait en off, le miroir brisé.
Miroir brisé. Alors là, déjà, j'ai été très émue par le partage de Delphine. Il faut que je me remette un peu.
Pas de souci, vous avez quelques secondes, sans problème.
Voilà. Et en fait, ce que je vais dire, je ne savais pas du tout ce que Delphine allait partager, mais ça suit. C'est une petite expérience matérielle. C'est pas psychique, mais ça peut devenir psychique, parce que ça m'a parlé sur un plan psychologique. Je marchais en ville, tout simplement. Tout d'un coup, je vois des bris de verre au bord du trottoir. Et ça arrive souvent, n'est-ce pas, à Montaigne, bris de verre au bord du trottoir. Mais là, il y avait un éclat particulier à ces bris de verre. Alors, je m'approche, je me penche, et il y avait plein de morceaux de verre de toutes les tailles. Vraiment des tout petits, des moyens, des grands. Et c'était un miroir brisé. Et ce qui m'a frappé, qui m'a laissé vraiment ébahie en positif, c'est que dans chaque morceau, quelle que soit sa taille, je voyais mon visage en entier. Je me voyais dans chaque morceau, en entier, mon visage. Mais mon visage était de taille différente à chaque fois. Et il y en avait des tout petits, des grands, des moyens. Mais il était là en entier à chaque fois. Et ça m'a semblé extraordinaire, ça m'a frappée. Et je me suis dit, mon Dieu, mais on peut être brisé dans la vie, vraiment, à ne pas pouvoir remettre les morceaux ensemble. Mais dans chaque morceau, on peut se retrouver en entier. Et je reviens à l'espoir que Delphine a donné. Merci.
Merci Patricia pour ces mots touchants. Et oui, vous avez raison, malgré les brisures de la vie, on a tout le temps la possibilité de reconstruire, de recréer. Et puis des fois, il y a des parties de nous qui sont un peu plus petites, un peu plus grandes. Il faut juste savoir comment les reconnaître et comment donner un peu plus d'importance à certaines et à d'autres pour aller vers ces chemins du rétablissement. En tout cas, notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos participants du jour. Un grand merci à Loïse à la technique. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte en musique avec ce morceau proposé par Patricia qui s'intitule Magic Fly de Space.